Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjan Chellil, on va parler des food duplicators et de recettes secrètes.
Et oui, bonjour à tous, bonjour Thibaut. Effectivement, on va parler des food duplicators. Je ne sais pas si tout le monde saisit bien ce que c'est les food duplicators. J'avoue que moi, avant de commencer à chercher un peu qui se cachait derrière tout ça, j'avais un petit peu de mal à comprendre ce que c'était. Puis j'ai vite compris que c'était quelque chose de très fun déjà.
Ouais, voilà. Alors vous savez, nous, la mission qu'on s'est donnée, chers amis, eh bien, c'est de partager avec vous notre veille social media et aussi les tendances social media qu'on voit émerger. Eh bien, les food duplicators, c'est une tendance forte qui nous vient évidemment des États-Unis qu'on va décrypter avec vous ce matin et qui consiste, si on peut le dire assez simplement, ce sont des content creators, bien souvent des cuisiniers amateurs, eh bien, qui reproduisent des recettes connues.
Oui, c'est ça, c'est des cuisiniers qui sont devenus connus sur les réseaux, sur YouTube, ou qui ont monté leur émission de cuisine en basant ça sur des recettes secrètes, des recettes que tout le monde connaît mais que personne n'arrive à reproduire. Et bien eux, ils tentent de le faire.
Voilà, tout le monde aime connaître un secret, hein. C'est peut-être un truc lié à l'enfance. Il y a beaucoup de recettes que les marques d'ailleurs aiment garder pour eux-mêmes, hein. Les plus célèbres, on peut en citer quelques-unes. Eh bien, il y a KFC avec ses célèbres 11 herbes et épices secrètes, Coca-Cola avec sa recette inchangée et le mythe d'un coffre-fort qui renfermerait la recette depuis des années. D'ailleurs, récemment, tu vois, j'ai eu l'occasion de me rendre à Voiron, en Isère, où j'ai pu visiter les caves de la Chartreuse. Très cool, hein, la célèbre liqueur verte. Voilà.
Et oui, et là derrière se cache un énorme secret.
Et ouais, là aussi, recette secrète. Hein, c'était la recette. Alors, je vous invite à aller visiter, c'est ultra cool. Mais tout le long, La dame qui nous faisait la visite, hein, n'a pas arrêté de parler de la fameuse recette secrète. Et c'est rigolo parce que j'ai retrouvé un discours assez proche de celui de Coca-Cola. Excusez-moi, nos amis isérois, mais c'est vrai.
Non, parce que c'est Coca-Cola qui a tout repompé sur le plan de com des moines de là-bas, de Voiron.
Parce que pour revenir à Coca, eh bien, la légende dit qu'il y a deux personnes seulement qui connaissent la recette du Coca-Cola et ils ne connaissent que la moitié chacune. Eh bien, c'est rigolo parce que le mythe autour de la recette de la Chartreuse est pas loin. Il n'y aurait que deux moines qui connaissent la recette. Donc ce qu'on voit, hein, que ce soit vrai ou non, eh bien, c'est clairement la recette secrète, c'est clairement aussi un argument commercial, sans doute un argument marketing fort. Hein, parce que dans le marketing, ce qui est unique est essentiel.
Ah bah oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit en disant qu'il n'y a que nous qui savons le faire, plutôt que de dire on vous vend un produit que tout le monde sait faire, mais le nôtre, il est quand même meilleur. C'est plus facile de dire c'est le seul.
Exactement. Et unique. Si tout le monde connaissait la recette du produit que je vends, eh ben, il ne serait pas unique. Et dans le marketing, donc, ce qui est unique est fort et essentiel à un prix. Oui. Donc, c'est tout la magie autour de ces recettes secrètes de marque qui sont imitées, mais jamais égalées. Hein. C'est le fameux adage. Et le comble d'une recette secrète quand on est une marque, eh ben, c'est que justement, les gens essayent de l'imiter. Hein. Et c'est ce que ces food duplicateurs font. Et on voit cette tendance depuis 2 ans. C'est une tendance très forte. Je le disais, en provenance des États-Unis et sont concrètement, ça ravit en tout cas les amateurs de junk food, hein, parce que ça vient des États-Unis. Et puis sans doute aussi les marques, hein, qui doivent se frotter les mains en disant « Ah, c'est trop cool, continuez à imiter mon Big Mac », parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous donnez encore plus envie aux gens de venir chez McDo.
C'est sûr que ça fait une bonne pub. Et puis après, je pense que là, tu parles dans un sens, dans le sens des marques qui ont des recettes uniques qui du coup sont copiées. Mais on peut aussi prendre ses créations dans l'autre sens et se dire que certaines marques pourraient peut-être se pencher sur ce nouveau concept et pourquoi pas aller faire des recettes. On va voir là dans les food duplicators qu'on va vous présenter, mais par exemple des recettes de films ultra connus ou des recettes de séries, ou ça pourrait être des recettes de jeux vidéo ou j'en sais rien. Des recettes que tout le monde en tout cas a identifiées et que vous, avec votre marque, parce que vous vendez un des aliments de cette recette, vous allez pouvoir essayer de refaire.
Et ouais, parce que tu as raison, hein, y a des opportunités pour les marques, hein, sur cette tendance, parce que ça cartonne concrètement, l'engagement, le nombre de vues, etc. Ça marche sur les audiences, les gens aiment ça. Et pourquoi on aime ça ? Eh bien, peut-être parce que la copie d'une recette secrète, c'est quelque chose de l'ordre d'un peu de la chasse au trésor. Hein. Je reviens à l'enfance. Tu trouves quelque chose que tu n'es pas censé trouver. En gros, c'est un peu une cuisine taboue. Et donc, c'est assez excitant. Tu as envie d'aller connaître la recette secrète du Nutella, par exemple. Bah oui, parce qu'on te bassine tellement avec. Donc, tu as envie d'aller voir ce contenu. Voilà, on trouvait cette tendance très intéressante. Ce qu'on peut dire, c'est où est-ce qu'on les trouve, ces food duplicateurs, hein, ces créateurs de contenu.
Bon, on les trouve principalement sur YouTube parce qu'ils ont des émissions de cuisine et puis il y a quand même beaucoup, pour le moment c'est un mouvement qui est beaucoup américain. En tout cas en France il y a encore peu de contenu qui va dans ce sens là, mais on est sûr que c'est une tendance naissante qui va forcément arriver ici aussi vu la manière dont les comptes cartonnent à l'étranger.
Ouais, voilà, donc sur YouTube, hein, si vous tapez copycat recipes, donc copie de recettes, vous allez tomber sur des milliers de vidéos sur YouTube, c'est très impressionnant. Idem sur Pinterest, copycat recipes dans Pinterest, et là vous allez tomber sur des tonnes de pins, de boards avec les recettes du tacos de Taco Bell, avec la vraie recette du donut Krispy Kreme, etc. C'est assez fun. Et puis sur Instagram, il y a aussi le hashtag copycat recipe qui rassemble à peu près 13 500 contenus. Donc on voit que la tendance, elle est là et elle commence petit à petit à prendre du terrain, avec surtout derrière des beaux taux d'engagement. Peut-être qu'on peut commencer, Adjan, à présenter quelques comptes un peu fun qu'on a débusqués en cours de route.
Bien sûr. Alors, le premier que je voulais vous présenter, c'est un compte énorme. On parlait justement des deux personnes qui refaisaient des recettes de séries ou de films. Lui, il a eu l'idée, ça fait déjà un petit moment. Sa chaîne s'appelle Binging with Babish. Vous pouvez la trouver sur YouTube assez facilement. Il a plus de 5 millions d'abonnés. C'est énorme. Il a une page Facebook aussi, hein, avec 323 000 fans, une page Instagram avec 416 000 fans. Mais comme on le disait, là où il est vraiment présent, là où il fait vraiment sa création, c'est sur YouTube, où il a tout simplement une chaîne de cuisine. Alors cette chaîne est complètement folle, elle reproduit des plats, hein, qui sont dans des films, des séries ou des dessins animés. C'est une émission de cuisine sur Internet qui est vue par des millions de personnes à chaque épisode. Donc chaque épisode fait plus de 12 millions de vues. Enfin, c'est assez impressionnant.
Ouais, c'est dingue, hein. On est sur des chiffres ahurissants. Ouais.
Ouais, c'est assez fou. J'en parle depuis tout à l'heure, mais je vais quand même dire son nom. C'est Andrew Rea, qui est amateur de cinéma à la base et de télévision, et qui se montre, hein, dans chaque vidéo et qui fait une recette basée sur une série ou un film. Donc c'est plutôt son côté justement amateur de cinéma et de télé qui s'est dit genre... Ah mais là il y a un truc à faire, là j'ai envie de refaire tel sandwich de tel film, etc. Le plus simple, c'est de donner des exemples, hein. A refait par exemple le bœuf bourguignon de Julie and Julia, les crevettes Booba de Forrest Gump, il a fait Ratatouille bien sûr du dessin animé. Donc voilà, il y a plein d'exemples. Je vous laisse surtout aller voir sur sa chaîne, hein, pour voir un petit peu. Sa chaîne YouTube, il l'a créée en 2006, donc vous voyez, c'est pas une tendance. Lui il était vraiment dans la
précurseur.
Ah ouais,
hein,
là c'est très très précurseur, il était en avance sur le sujet. Ça fait déjà 13 ans qu'il a monté sa chaîne. Mais la première vidéo qui a vraiment cartonné, qui a connu un gros gros succès, c'est en novembre 2016 quand il a refait un sandwich célèbre de la série Friends. C'est un sandwich où il y a Ross, si vous connaissez un peu la série, qui fait tout un laïus sur le fait qu'il s'est fait voler son sandwich de Thanksgiving et que c'était la dernière belle chose qui lui restait dans la vie. Et du coup, il le décrit en détail. Et bah, il a refait ce sandwich-là. Et donc, c'est en 2016, hein, je répète, que cette vidéo a vraiment cartonné. Donc déjà, le mec a tenu une chaîne pendant 10 ans sans connaître un succès incroyable, quoi, en ayant son petit public. Et au bout de 10 ans, il a une vidéo parce que ça y est, c'est la tendance, c'est ce que les gens ont envie de voir, ça commence à monter. En 2016, il cartonne avec sa vidéo sur Friends. En 2017, Andrew Rea, donc fort de tout ce succès, sort même un livre qui s'appelle « Mangez ce que vous regardez ». Dans lequel vous retrouvez toutes les recettes qu'il a pu faire des films les plus connus, des séries les plus connues. Sur Facebook, si vous voulez le suivre sur les réseaux, il se contente, hein, principalement de poster les vidéos qu'il a mis sur YouTube. Et puis sur son Instagram, il poste plus des petites photos de sa vie avec pas mal d'humour. Donc je vous laisse aller découvrir ça, c'est assez fun.
Ouais, alors évidemment, lui, il copie des recettes issues de films ou de dessins animés, donc c'est assez drôle. Mais il copie aussi des recettes de marques.
Oui.
Par exemple, là, il y a une vidéo avec 4,5 millions de vues. dans lequel il propose la recette, hein, la vraie recette pour fabriquer le menu KFC qu'on retrouve ouais. dans Stranger Things. Donc c'est assez drôle parce qu'on retrouve à nouveau deux mécaniques qui sont d'une celui du film, donc toute l'excitation qu'il peut y avoir autour des fanbases de films pour tu sais, les hardcore fans qui vont essayer d'imiter ce qu'ils ont vu dans leur série ou dans leur film, et puis à côté vraiment la fameuse recette, le mythe de la fameuse recette secrète de Marc. C'est rigolo.
Ouais, ça reste toujours, il y a toujours ce prisme de le faire à travers un film, hein. Donc même quand c'est pour une marque là comme KFC, voilà, il y a Stranger Things qui va avec.
Allez, moi je vais vous parler de Todd Wilbur, que vous pouvez retrouver sur Instagram assez simplement, hein. C'est Todd, T-O-D-D, Wilbur. Évidemment, on vous met les notes de toutes ces références dans le résumé de ce
donc,
podcast.
Donc allez voir, hein, là, en écoutant directement, c'est plus facile pour suivre.
Exactement, et allez et jeter un coup d'œil du coup au compte de Todd Wilbur. Lui, il a une communauté de à peu près 50 000 followers sur Instagram. Puis il a aussi un site internet, hein, que je vous invite à aller voir, qui s'appelle topsecretrecipes.com. Et lui, il se considère vraiment comme un food hacker. Il craque les formules secrètes des recettes populaires américaines, bien souvent, et ensuite, il partage la recette. C'est assez kiffant. Et alors, juste deux, trois petites choses. Lui, ce qu'il dit, hein, pour décrire son travail, en tout cas, ce qu'il produit, il dit, les grandes entreprises alimentaires, elles prennent des mesures pour protéger leurs recettes secrètes originales, mais rien n'empêche un pirate expérimenté comme moi de rechercher les indices dans les aliments eux-mêmes, puis de travailler à les refaire, à les recréer moi-même et de façon à vous les partager. C'est assez marrant. Et en effet, c'est un vrai travail de hacker, hein, avec une vraie approche quasi scientifique. Dans un article de blog, il détaille par exemple comment il a réussi à recréer la sauce Szechuan. Tu sais, cette fameuse sauce Szechuan de McDonald's qui a fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux, hein. Pour rappel, en 1998, McDo crée une sauce pour nuggets à la sortie du film Mulan de Disney qui s'appelle la sauce Szechuan. C'est une sauce qui a vocation à être à durée limitée, hein, juste pendant la sortie. Et puis, quelques années plus tard, il y a un dessin animé qui s'appelle Ricky et Morty. Pour les geeks qui nous écoutent, vous connaissez sans doute, qui revient dans sa saison 3 sur cette fameuse sauce avec une série d'épisodes autour d'une quête obsessionnelle à la recherche de cette sauce qui a disparu. Et donc, cette sauce, ce qui a créé un buzz énorme, hein, en social media, c'était très drôle. Bah, lui, évidemment, il rebondit là-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il la donne, la recette. Et pour ça, il sort carrément son microscope, hein. Il passe, quand je dis c'est scientifique, c'est vraiment scientifique. Il prend la sauce, il la passe au microscope et il essaye d'étudier tous les ingrédients qui composent cette sauce. Et il fait 1000 essais pour la reproduire et arriver à reproduire à l'identique la sauce du McDo. Ouais,
le gars va loin, quoi.
Et le gars va très loin et il fait ça pour un paquet de trucs. Il fait ça pour des nuggets, il fait ça pour, je sais pas, la salade d'accompagnement de tel fast-food. Il fait ça pour des donuts, pour des desserts, etc. C'est assez kiffant. Évidemment, le mec a fait plein de bouquins. Et voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus.
Ouais, là, je vois par exemple, vous pouvez retrouver les potatoes de KFC, là. Je vois sur Instagram, c'est une de ses dernières créations. Ça a l'air bien cool tout ça. Voilà, alors pas mal de KFC, je vois.
Après, c'est bien ricain, hein. Faut dire qu'eux, ils ont leur référentiel culturel à eux, hein.
Bien sûr.
Et peut-être que demain, tu auras peut-être des créateurs en France qui s'amuseront à aller imiter la soupe VGE de Paul Bocuse à l'identique.
Bah oui, pourquoi pas, hein. Ouais. En même temps, ça peut être un petit peu plus compliqué encore, je sais pas, parce que quand il faut aller chercher des recettes industrielles vraiment bien cachées, c'est pas forcément plus facile. Moi, je vais vous parler d'un autre compte qui s'appelle Healthy Junk Food. Donc, je vous laisse regarder, hein, c'est écrit H-E-2-L-T-H-Y, donc un petit jeu de mots avec l'enfer, Junk Food. C'est une chaîne qui a un peu plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, donc grosse chaîne aussi, 82 000 personnes qui les suivent sur Instagram, 219 000 sur Facebook. Vous avez tous les liens en dessous pour aller voir un petit peu ce qu'ils font. C'est une satire culinaire, en fait, de cuisine, spécialisé pour le 21e siècle et la bouffe industrielle, le fast-food en particulier, la junk food, hein, comme l'indique le nom de la chaîne. Ils sont deux à avoir monté cette chaîne et à présenter cette émission de cuisine sur YouTube, JP Lambiaz et Julia Goulia. Le but premier, hein, de la chaîne était d'encourager les gens à faire à manger chez eux et à arrêter d'aller toujours vouloir manger dehors. Et en fait, ça s'est fait avec beaucoup d'humour parce que c'est deux personnes qui ont l'air de beaucoup s'amuser en faisant ce qu'ils font. Et dans leur vidéo, ils ont mis ça en avant pour essayer un peu de se démarquer des autres shows de cuisine en ayant un humour un peu loufoque. Pour arriver à leur but, donc, ils ont plusieurs types de vidéos. Et moi, celle qui m'a un petit peu le plus choqué et qui va le plus dans le sens de notre épisode d'aujourd'hui, c'est le type de vidéo où ils recréent des plats ultra connus, mais immenses. Donc, par exemple, ils ont refait un immense nugget de KFC ou de McDo, je ne sais plus. Un immense paquet de Pringles. Donc, pareil, hein, ils cherchent comment on refait la recette. Et là, pour les Pringles, ils ont carrément refait un packaging en immense et en faisant des grandes chips à l'intérieur. Un super long McRib, donc sandwich de McDo qu'ils ont allongé pareil en immense. Et voilà, ils refont. Et en fait, tout ça pour refaire des éléments que tout le monde connaît de la junk food américaine, hein, surtout. Côté réseau, ils maîtrisent très bien Instagram avec des photos très drôles et qui représentent bien leur univers. Ils ont une chaîne IGTV où ils repostent leurs vidéos à la verticale. Et puis, ils utilisent même la Highlight Story. Donc voilà, ils ont tout l'attirail du parfait déploiement CM. Sur Facebook, par contre, ils postent surtout leurs vidéos de YouTube qui partagent là-bas. C'est une chaîne qui est très drôle, qui est un petit peu plus borderline dans le sens où il n'y a pas que de la vidéo de Food Duplicator, mais ça reste une volonté de leur part d'en faire, notamment dans les comme je disais, dans les immenses nuggets qu'ils refont, par exemple. Et je vous laisse aller voir ça, c'est très drôle.
Voilà les amis, c'était quelques idées, hein, quelques comptes de Food Duplicator. Ce qu'il y a de marrant, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que en fait le droit d'auteur, il ne couvre pas les recettes.
Non.
Donc tu as beau avoir une recette secrète, c'est pour ça que c'est du marketing avant tout, hein, c'est de la communication, parce qu'une recette, en vrai, ce n'est pas déposable.
Ça ne peut pas être unique.
Exactement, on parlait de Bocuse et sa soupe VGE, quelqu'un qui retrouverait la méthode peut très bien la faire. Il n'y a pas d'atteinte au droit d'auteur. Juste, je suis allé creuser, hein, sur ce sujet, parce que ça m'a intrigué. En fait, ce qui est protégé, c'est la recette écrite et la manière dont tu l'écris, comme un article, en fait. Hein. Mm-hmm. Et la manière dont tu raconterais les ingrédients. Mais par contre, quelqu'un qui vient piquer la recette de KFC et la reproduire chez lui, KFC ne pourrait pas attaquer.
Je pense même qu'un cuisinier, par exemple, qui aurait travaillé chez Bocuse et qui montrait son restaurant plus tard, pourrait refaire une recette qu'il a vue chez Bocuse, comme la soupe VGE, par exemple, en l'appelant la soupe de Bocuse, par exemple, dans son nouveau restaurant. Et je suis sûr qu'il ne serait sûrement pas inquiété juridiquement. En tout cas. Tout à fait.
Voilà, écoutez, c'était les Food Duplicator. Peut-être pour vous, amis, qui travaillez dans le fooding, hein, dans le food, et qui êtes social media manager, peut-être que ça peut vous donner des idées là, hein, dans vos créations de contenu. En tout cas, nous, ça nous en a donné un petit peu.
Grave.
Et puis, pour les autres, hein, qui aimaient de temps en temps manger gras et américain, et tiens, pourquoi pas ce week-end vous nous préparez un petit Big Mac maison
et puis vous nous l'envoyez sur les réseaux, hein, à Super Natif directement, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, et puis on vous souhaite un super week-end.
Très très belle journée à vous, merci, au revoir,
ciao ciao,
salut.